15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours en direct de 15h à 16h. Il est à mes côtés tous les jours pour animer cette émission, pour nous expliquer tous vos petits et vos gros bobos, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la beauté de nos mains. Avec l'âge, la peau des mains a tendance à se creuser, on peut avoir des taches, ce qu'on appelle vulgairement les fleurs de cimetière. Et puis parfois, même si au niveau du visage on est bien entretenu, eh bien nos mains peuvent trahir notre âge. Donc avec notre invité, le docteur Jean-Marc Ada, médecin esthétique, nous ferons le point sur les différentes techniques qui permettent de retrouver des mains de jeunes filles ou de jeunes hommes. Ça peut intéresser les hommes aussi, bien sûr. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des conséquences des punitions sur le cerveau de nos enfants. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler de quelque chose qui n'est certes pas très fréquent en France, la lèpre, à quelques jours des journées mondiales contre cette maladie. C'est l'occasion de faire un point sur ce mal qui fait encore plus de 200 000 victimes chaque année. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de baisers profonds avec la langue. Certaines personnes n'aiment pas du tout ça. Catherine nous expliquera que ça peut être le symptôme d'un blocage lui aussi plus profond.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Béatrice, 45 ans.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour à tous. J'ai entendu parler d'une étude qui dit que les rapports sexuels retardent la ménopause. Alors moi ça m'inquiète un petit peu, est-ce que c'est vrai ?
Alors Jimmy, est-ce que c'est inquiétant ? Non, je ne sais pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, une étude scientifique britannique qui a montré ça effectivement il y a quelques jours. Ça va réjouir en tout cas les femmes qui sont très actives sexuellement, parce que la ménopause, on a tout envie de l'avoir le plus tard possible. Avoir beaucoup de rapports, donc ça retarderait l'arrivée de cette ménopause.
Oui, c'est une étude anglaise de l'Université de Londres qui s'intéressait à 3000 femmes qui avaient entre 42 et 52 ans, entre 96 et 2007. Au début de l'étude, aucune n'était ménopausée, mais la moitié d'entre elles avaient déjà des petits changements de cycle menstruel et des bouffées de chaleur. Pendant 10 ans, elles ont répondu à des questions concernant la fréquence de leurs rapports sexuels.
Alors, celles qui étaient donc le plus actives sexuellement sont celles donc qui ont eu la ménopause en moyenne le plus tard, hein, c'est ça ?
Oui, en gros, ça a montré que les femmes ayant des relations sexuelles toutes les semaines seraient 28% moins susceptibles de connaître la ménopause que celles qui font l'amour une fois par mois. En tout cas, dans cette étude, bon, elles finiront toutes par avoir
oui,
la ménopause,
ça,
mais
ça
c'est inéluctable.
Définitivement. Oui,
alors, on l'expliquerait par le fait que si on n'a pas beaucoup de rapports sexuels, et donc on n'a pas de chance de grossesse, donc pas d'intérêt d'investir dans l'ovulation, d'où le corps
se
mettrait
ouais,
en ménopause de façon un peu plus précoce.
D'accord. Alors, pour en savoir plus sur ce retard de l'âge de la ménopause, on a aussi demandé son avis à un spécialiste du vieillissement, le professeur Philippe Amouyel, qui était hier sur notre plateau. On l'écoute.
Une des hypothèses qui est la plus courante actuellement, c'est la réflexion que doit avoir notre corps entre ovulation et grossesse. Si par exemple vous avez une forte probabilité de développer une grossesse, votre corps va continuer à ovuler et donc la ménopause n'apparaîtra pas, puisque la ménopause c'est l'arrêt de l'ovulation. Si par exemple votre corps s'aperçoit que vous réalisez des rapports sexuels toutes les semaines, il peut s'attendre justement à avoir une grossesse et à retarder le plus possible la survenue de cette ménopause. Inversement, si ces rapports sexuels sont moins fréquents, le corps à ce moment-là se met au repos et l'ovulation diminue, entraînant une ménopause plus précoce.
Et est-ce qu'on a un avantage pour notre santé justement à repousser la ménopause ?
Ce dont on s'aperçoit, c'est que les femmes qui développent une ménopause précoce ont plus souvent des facteurs de risque, notamment de type vasculaire, qui viennent s'accumuler, puisqu'en fait, l'environnement hormonal associé justement à la femme et à ses capacités reproductives sont protectrices vis-à-vis des maladies cardiovasculaires, par exemple, et d'autres maladies, comme certaines maladies neurodégénératives. Si cette ménopause survient très vite, le bénéfice de cette protection sera conservé très longtemps, restera même 10 ou 15 ans après la ménopause, et permettra justement de mieux aborder cette phase, cette troisième phase de vie. A l'inverse, lorsque la ménopause survient plus précocement, on s'aperçoit à ce moment-là qu'un certain nombre de maladies cardiovasculaires viennent s'accumuler avec l'âge.
Voilà pour quelques explications qui confirment une fois de plus qu'est-ce que sexuellement actif, c'est bon pour notre santé. Alors on passe à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Victor qui nous a appelé de Saint-Étienne. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai tout le temps la bouche sèche et j'avoue que c'est quand même assez gênant et je voulais savoir s'il fallait que je consulte et puis de quoi ça pourrait venir tout ça. Voilà, merci beaucoup pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Alors Jimmy, d'abord, est-ce que ce problème de sensation de bouche sèche, c'est quelque chose de fréquent et c'est quoi en fait finalement?
Oui, ça s'appelle la xérostomie, ça rentre dans le cas du syndrome buccal sec. C'est très fréquent, on a des paires de glandes salivaires, on en a trois et plein de glandes accessoires. Et avec l'âge, elles vieillissent, elles marchent moins bien. C'est très fréquent, c'est 30% de la population après 65 ans.
Oui, quand même.
Et la cause principale retrouvée néanmoins, ce sont les médicaments. Souvent, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les thymorégulateurs, les neuroleptiques. Et puis parfois, des médicaments moins, qu'on soupçonne un peu moins, comme les antitussifs ou les antispasmodiques. Et ça peut être responsable de pas mal de complications. Comme on n'a pas de salive, on a du mal à parler, on a du mal à mastiquer, donc on mange moins bien. Et puis il y a des complications avec des gingivites, pardon, un risque de mycose et de caries dentaires. Donc il est important de prévenir ces caries. Et puis on peut quand même essayer de soulager les gens, il y a quelques petits remèdes qu'on peut prendre.
Alors justement, donc, c'est important, ça peut être grave, donc ça se soigne, hein, c'est
on
ça
arrête les médicaments quand c'est possible, il faut augmenter ses apports hydriques, sucer des petits bonbons acidulés, et puis consulter le dentiste pour éviter les complications dentaires.
Donc toujours consulter, on prend pas ça à la légère. Merci beaucoup Jimmy. Si vous aussi, comme Victor qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des effets des punitions sur le cerveau des enfants. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le docteur Jean-Marc Adda, médecin esthétique, qui va tout nous dire sur la beauté des mains. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le médecin esthétique Jean-Marc Adda, pour parler de la beauté des mains, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez un peu d'éducation et surtout des conséquences négatives que peuvent engendrer les punitions chez les enfants. Vous allez faire plaisir à plein d'enfants là. Évidemment qu'on a tous puni un jour nos enfants, mais vous allez nous expliquer pourquoi cela peut être contre-productif. Néanmoins, il faut quand même reconnaître, Jimmy, qu'il y a des enfants, ils sont insupportables. Hein. Comment on peut l'expliquer ça?
Alors c'est vrai, c'est le docteur Catherine Guéguen qui est spécialiste en pédiatrie et qui écrit beaucoup d'ouvrages très intéressants, qui explique que la partie du cortex qui contrôle nos émotions et nos impulsions ne commence qu'à maturer à partir de l'âge de 5 ans, entre 5 et 7 ans. Ce qui veut donc dire que en dessous de 5 ans, le cerveau archaïque et émotionnel domine l'enfant et il se contrôle très difficilement. Il tempête pour obtenir ce qu'il aime, de même qu'il peut être traversé par des peurs incontrôlées, des très grandes angoisses, voire de grands chagrins. Ce n'est pas des caprices, ce n'est pas un trouble pathologique du développement, c'est juste la conséquence d'une immaturité normale de son cerveau. L'enfant ne peut pas réagir comme un adulte, c'est pas qu'il ne veut pas, mais il est juste dans cette incapacité et il ne peut pas contrôler ses émotions.
Bon, et après 5 ans, on punit, on y va là, fond, non, je rigole. Du coup, c'est contre-productif de vouloir le punir ou pire, d'avoir des paroles même humiliantes, ça peut arriver avec le fameux « t'es nul, tu sais rien faire », ça c'est pas bon. Hein.
Exactement, les chercheurs de l'université d'Harvard se sont penchés sur la question et sur les conséquences de paroles humiliantes. On s'est rendu compte que les paroles blessantes, humiliantes ou méprisantes ont des répercussions néfastes sur le cerveau des enfants et altèrent le fonctionnement des circuits neuronaux et de zones qui participent à la compréhension du langage. Ces atteintes sont à l'origine de somatisation, de dépression, de troubles anxieux et dissociatifs à l'âge adulte.
Quand même.
D'autres études montrent que des paroles blessantes peuvent avoir de vraies, peuvent être aussi violentes que de la vraie maltraitance physique et que ça peut être associé à un risque de délinquance, voire une agressivité importante. Les enfants qui subissent ce genre de symptômes peuvent avoir des troubles de la personnalité par la suite, des personnalités borderline, bon, narcissiques.
Ça n'arrive pas quand même à chaque fois. Moi, j'étais un peu punie, je ne crois pas être devenue comme ça. Mais bon, c'est important d'en savoir un petit peu plus. J'imagine que vous l'avez un petit peu amorcé là, mais ça doit être pire avec les châtiments corporels. Hein,
ouais, ils sont délétères sur le cerveau. On a fait des IRM à des enfants qui ont subi des punitions et on s'est rendu compte que leur cortex orbitofrontal présentait une diminution de leur volume. Or, ce cortex, il a un rôle très important dans la capacité d'affection, d'empathie et joue un rôle important dans le sens moral et participe à la régulation de nos émotions. Ce qui veut donc dire que pour rencontrer de véritables troubles relationnels à l'âge adulte.
Et pour terminer, je crois que vous voulez ajouter sur le fait que faire peur à un enfant aussi, ça peut être délétère.
Exactement. L'amygdale, c'est le centre de la peur. Cette amygdale, dans le cerveau, elle est parfaitement mature dès la naissance. Ce qui veut donc dire qu'un enfant qui vient de naître peut avoir peur. Le problème, c'est que les structures qui peuvent réguler cette peur ne sont pas matures. Et un enfant peut être dans cette tempête émotionnelle qui va être nocive pour lui. Il va sécréter énormément d'adrénaline et de cortisol. On en a tous besoin. Mais lorsqu'on en produit en excès, du fait d'une peur,
c'est
lorsqu'on
toxique.
Les gronde, on leur fait peur, c'est toxique et ça altère les neurones et des structures cérébrales très importantes qui ont un rôle important dans l'émotion. Bref, ne criez pas sur vos enfants, ce n'est pas une méthode éducative.
Oh, tout le monde va vous adorer, les enfants vous adorent. Donc c'est terminé les punitions grâce au docteur Jimmy Mohamed. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Jean-Marc Adda, médecin esthétique à Boulogne-Billancourt.
15h, 16h, Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Ada.
Bonjour Mélanie.
Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de la beauté des mains, des techniques esthétiques qui permettent de garder des mains de jeunes femmes le plus longtemps possible, de jeunes femmes ou de jeunes hommes bien sûr. Il y a vraiment une demande, une grosse demande pour ce type de soins.
Aujourd'hui en fait, la demande de soins au niveau des mains vient compléter la demande de soins au niveau du visage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne veut plus avoir des mains qui vont trahir le visage.
Ah oui, c'est ça le problème. Et c'est quoi le profil des gens qui vous consultent pour ce type de demande-là? Ils ont quel âge en général? On s'intéresse à la beauté de ses mains à quel... enfin, moi, je sais pas, à 20, 30 ans, aujourd'hui encore, je ne m'y intéresse pas beaucoup à mes mains. J'ai peut-être tort.
Les mains viennent un peu plus tardivement que les rides au niveau du visage, mais comptez vers 40-45 ans l'apparition des premiers symptômes qui vont trahir l'âge.
Jimmy ?
Et vous avez plutôt des hommes ou des femmes dans votre patientèle qui justement se préoccupent de leurs mains ?
Alors, les femmes dégainent plus rapidement que les hommes, mais les hommes commencent à y penser de plus en plus à leur beauté. Au niveau des mains.
Et le problème avec les mains, c'est que justement, vous disiez parfois, le visage, on y pense, tous les jours, on le voit dans le miroir, donc on se met de la crème, on prend soin de soi, certains vont faire des injections ou autres pour avoir l'air plus jeune, donc le visage, il peut rester jeune assez longtemps si on l'entretient, mais les mains, elles peuvent trahir l'âge, en fait, c'est ça le problème parfois.
Oui, parce qu'on porte souvent la main près de son visage, et si jamais vous avez une main avec des taches, des rides, des veines apparentes et tout ça, avec un visage qui est tout à fait parfait, il y a une dénotation esthétique qui n'est pas très harmonieuse, quoi, qui n'est pas très jolie. Donc effectivement, le traitement des mains vient compléter le traitement du visage.
Et c'est pour ça qu'ils viennent vous voir parfois, hein. C'est quand il y a ce décalage trop marqué.
Hein. Et oui, il faut que ça soit une beauté uniforme.
C'est ça. Et est-ce que ça peut être aussi pour des raisons professionnelles, par exemple, qu'on peut avoir besoin de se refaire une beauté des mains?
Tout à fait. Si jamais demain, vous allez voir votre esthéticienne, qu'elle vous fait votre beauté des mains, beauté des ongles, et qu'elle a elle-même des mains avec beaucoup de taches ou des rides, c'est dommage, quoi. Ça peut se traiter. Donc,
dans les métiers, on utilise beaucoup ces mains, on les voit, ou les clients voient nos mains. Ça peut être effectivement.
Bon, moi, on parle beaucoup avec les mains aussi.
En radio, je suis tranquille, on ne voit pas mes mains, donc c'est parfait, je peux les garder tranquilles. Docteur Ada, on ne fait que commencer cet entretien, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc au concret. Quels sont véritablement les problèmes cutanés qui peuvent être améliorés au niveau des mains? Vous verrez qu'on peut traiter les signes de vieillissement, mais aussi certaines tâches. On va tout vous expliquer. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Jean-Marc Ada, médecin esthétique à Boulogne-Billancourt. Alors docteur Ada, aujourd'hui avec vous, on parle de la beauté des mains. Mais avant de parler des techniques précisément, dites-moi quand même, quelles sont les principales plaintes finalement des femmes? Parce que vous avez dit, c'est quand même essentiellement des femmes. Au niveau des mains, elles se plaignent de quoi?
En fait, au niveau des mains, on a principalement trois problématiques. La première problématique, c'est qu'avec le temps, on a une décharnation des mains, ce qui fait que les mains s'affinent, on a une perte de graisse sous-cutanée, et donc à cause de ça, on va se retrouver avec des plicatures de la peau, avec des rides qui vont apparaître. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est l'apparition des taches. La régulation de la mélanine se fait différemment avec l'âge, ce qui fait que régulièrement, à partir de 40-45 ans, on se retrouve avec des taches qui apparaissent sur le dos des mains. Et la dernière problématique, c'est l'apparition des veines. On a l'impression que les veines grossissent, mais en fait, les veines ne grossissent pas. C'est la chair qui diminue. Et donc, du coup, ça fait des mains qui montrent des irrégularités de surface qui sont vraiment inesthétiques.
Les mains, elles se décharnent. Vous avez dit que c'est la principale raison de consultation pour les mains. Oui. Parce qu'on perd quoi? En fait, la peau, elle s'affine.
La peau s'affine.
Et on perd du collagène, en fait.
On perd de la graisse sous-cutanée.
En fait, elles sont un peu joufflues, entre guillemets. Enfin, c'est pas joufflu des mains, mais bon, on comprend ce que je veux dire. Rebondies.
Les mains bébés sont très graisseuses, on va dire.
Elles sont mignonnes, les mains de bébé, c'est vrai. Hein. Et plus on vieillit, plus ça se
exactement.
Ça maigrit,
plus on vieillit, plus la peau s'affine et plus la graisse diminue. Donc d'accord. En fait, on va retrouver le relief osseux sous-cutané qui va donner cet aspect inesthétique des mains.
Vous parliez des taches de vieillesse qu'on appelle vulgairement les fleurs de cimetière. Oui. Ça, c'est obligatoire? C'est vraiment tout le monde finit avec des taches?
Même vous, vous n'y échapperez pas à partir de 40-45 ans. Mélanie, ouais. Je suis désolé, mais la plupart des... quoi, on va dire... 95% des patientes, à partir de 40-45 ans, se retrouvent avec l'apparition des premières taches.
Jimmy ?
Et pourquoi on a ces taches ? C'est pas dû au soleil ?
En fait, c'est une dérégulation de la gestion de la mélanine par votre corps. Ça veut
la
dire
mélanine, c'est quoi ?
La mélanine, c'est le pigment qui donne en fait aussi bien la couleur de la peau, les taches
cheveux,
de rousseur,
ouais.
Les cheveux et tout ça. Et en fait, à partir de 40-45 ans, la régulation de la mélanine s'altère et donc du coup, vous avez des dépôts de mélanine sous-cutanée qui se concentrent et donnent l'apparition des taches.
Et le soleil, il favorise ça, hein, c'est
exactement.
Ça
en fait, la stimulation de la mélanine, un des facteurs majeurs, c'est la l'exposition solaire.
Ça veut dire qu'il faudrait mettre de la crème solaire sur les mains ?
Comme sur le visage, pareil.
Ah oui, on n'y pense pas forcément. Hein. Ça, c'est un,
et comme on se lave les mains souvent et tout ça, donc du coup, même la crème solaire disparaîtrait plus rapidement.
Et vous parliez des veines, ça c'est pareil, c'est pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ont plus ou moins les veines apparentes en vieillissant, mais pas tout le monde, non ?
Non, vous pouvez avoir des profils de 40-50 ans avec des femmes un peu plus dodues. En fait, plus on est mince, plus on va avoir les veines. Donc des fois, ça vaut le coup de ne pas trop maigrir.
Ah, c'est ça, le poids, ça joue hein, beaucoup.
Oui.
Plus on est ronde, finalement,
exactement.
Et mieux on vieillit. Alors.
Bah, vous verrez, même
pas
sur un
visage. Pas pour les artères, forcément, et le système cardiovasculaire, hein, mais ça, Jimmy, on le dit souvent, le surpoids en vieillissant, c'est pas une bonne idée, mais pour garder des mains un peu rebondies, ça, c'est mieux.
Exactement. C'est comme sur le visage. Une femme un peu ronde aura toujours moins de rides qu'une femme toute mince.
Et alors, Jimmy, chez les hommes, ça vieillit de la même manière. Je vois ses mains, bon, elles ont l'air bien pour l'instant.
Il est jeune.
Mais il est jeune.
Et est-ce que le métier n'aurait pas un impact ? Peut-être que les mains, je sais pas, d'un écrivain ne vont pas vieillir de la même façon que les mains d'une personne qui travaille dans le bâtiment ?
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut préserver aussi le capital jeunesse de nos mains. Ça veut dire que si jamais vous utilisez vos mains au quotidien, comme vous disiez, les gens dans le bâtiment et tout ça, elles vont avoir des mains qui seront très déshydratées, très abîmées avec l'âge.
Avec un vieillissement prématuré, du coup.
Exactement.
C'est forcément le soleil aussi, hein, c'est ça, ce métier où on
tout
est dehors
fait.
En fait. Hein,
Exactement, tous les métiers, vous avez prof de sport, tous les métiers de l'extérieur, on va avoir une exposition au soleil plus importante. Et donc, du coup, les mains vont s'abîmer avec le temps. Mmh. Alors aussi, les gens qui travaillent dans la restauration, qui ont les mains tout le temps dans l'eau et tout ça, avec les produits de nettoyage, ça va aussi altérer...
Les coiffeurs aussi.
Exactement. Être...
Produits chimiques, alors ça,
les
c'est pire.
Hein,
évidemment,
ouais.
Les femmes de ménage aussi, qui touchent
tout
parfois des produits ménagers.
Tout
là, le
fait.
Conseil, c'est vraiment de... Si on doit vraiment manipuler ce type de produit, ouais, pour garder la peau le meilleur état possible, et même pour leur santé globale, mettre des gants obligatoires.
Hein. Exactement.
Est-ce que la peau des mains, c'est comme celle du visage? Il y a un côté génétique, c'est-à-dire si je regarde les mains de ma grand-mère ou de ma mère, est-ce que j'ai peux avoir une idée des mains de comment mes mains à moi vont vieillir?
Tout à fait. En fait, on a une prédisposition génétique sur l'évolution de nos mains. Après, il y a le mode de vie aussi. Hein. C'est comme le visage. On a une prédisposition génétique pour le visage, pour la peau du visage. Maintenant, si votre grand-mère ne fumait pas, eh ben, finalement, elle finira avec des plus jolies mains que si vous fumez.
Non, personnellement, j'ai arrêté. Merci
voilà.
Beaucoup, docteur Ada. Nous allons continuer cette discussion dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe enfin aux techniques de rajeunissement des mains et au traitement des taches qu'on peut avoir parfois aussi dessus, qui apparaissent avec l'âge et donc l'exposition au soleil, on l'a compris. L'acide hyaluronique notamment, ça ne sert pas qu'à traiter les rides sur le visage, c'est aussi le traitement de référence pour les mains et on parlera également du laser, vous allez voir. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Jean-Marc Ada, médecin esthétique à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Alors, docteur Ada, on passe à présent aux techniques à la disposition des patients, des patientes qui veulent donner un coup de jeune à la peau de leurs mains. D'abord, il y a donc l'acide hyaluronique, mais en skin booster. Alors, ça, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire dynamiser la peau en quelque sorte. C'est quoi ça, ces injections d'acide hyaluronique en skin booster ?
En fait, l'acide hyaluronique a deux formulations possibles. Vous avez la formulation qui est le skin booster, qui est une formulation d'hydratation de la peau. Et vous avez l'acide hyaluronique qui est volumateur, c'est un produit de comblement où on va remplir la peau. En fait.
On parlera du deuxième après, le premier. Donc
exactement.
Le skin booster, c'est quoi ?
Donc le skin booster, en fait, quand vous commencez à avoir un début de vieillissement, un vieillissement des mains et pour lequel vous n'avez pas besoin de travailler sur le relief de la main, on va travailler en hydratation. Ça veut dire que vous savez qu'à partir de 30-35 ans, on ne produit plus d'acide hyaluronique. Donc, en fait,
naturellement.
Naturellement.
Hein.
Donc en fait, nous, on vient supplémenter cette carence en acide hyaluronique de manière à continuer l'état d'hydratation de vos mains. Ça veut dire que si jamais vous réalisez assez jeune que vos mains commencent à vieillir, eh ben on démarre très vite en skin booster et grâce à ça, ça vous permettra de pérenniser un état cutané.
C'est des piqûres dans les mains donc hein.
Petites piqûres dans les mains, mais vraiment toutes petites aiguilles, vous n'aurez jamais peur.
D'accord, et vous mettez, c'est pas le même flacon, hein, c'est un acide hyaluronique spécial qui n'est pas le même, qui se servira, on en parle juste après. Il faut le faire tous les combien ? Vous dites vers 40 ans par exemple, quand on commence à avoir des signes de vieillissement. On fait ça tous les combien ?
Une séance tous les 6 mois suffiront largement.
Et ça coûte combien ?
Il faut compter une ampoule à 200 euros à peu près.
D'accord. Ensuite, donc, il y a l'acide hyaluronique volumateur.
Exactement.
C'est pas le même produit.
Alors,
là, vous faites quoi ?
Une fois que les reliefs sont altérés, on est obligé de passer à l'acide hyaluronique volumateur en fait, pour venir colmater les trous, les bosses et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on est obligé de prendre un acide hyaluronique qui est plus dense. Et donc du coup, qui va pouvoir venir combler les endroits où vous avez des trous au niveau des mains.
Jimmy ? Attention au micro, oui, allez-y.
Et quand ça se passe cette séance, on doit aussi faire des piqûres de la même façon que...
C'est pareil. En fait, l'acide hyaluronique, vous le posez aux endroits où on en a besoin, ce qui fait que c'est la même technique avec le skin booster petites aiguilles en sous-cutané, ça saigne rarement et grâce à ça, vous allez rétablir le relief de la peau.
Mais du coup, vous faites combien de piqûres sur la main, par exemple? Parce que ça peut être décharné un peu partout, c'est même les doigts.
On peut faire sur les doigts aussi, sur une main, il faut faire une petite dizaine de piqûres. Mais si vous voyez
sur chaque main,
mais si vous voyez la taille de l'aiguille, c'est pas du tout impressionnant.
Donc ça fait pas mal.
Ah non, c'est pas mal. Moi, les patientes, elles me racontent un petit peu leur vie pendant que je leur fais.
Comme une épilation, quoi, c'est pas très agréable. Une épilation à la cire, je veux dire.
Exactement.
C'est pas très agréable, mais c'est pas non plus.
On n'a pas beaucoup de nerfs au niveau des mains. Pincez-vous les mains pendant que je vous parle.
Ouais,
et vous verrez que vous n'avez pas spécialement mal. Ce qui fait que il n'y a pas besoin d'anesthésie. Donc du coup, la séance se passe. Il faut une vingtaine de minutes et la séance se passe très bien.
J'allais dire 20 minutes parce que bon, c'est le temps des piqûres. Et puis après, il y a une espèce de massage, je crois.
Ouais, j'ai une super assistante qui vient masser derrière.
Comment vous arrivez, vous piquez, vous, et puis.
Exactement. Moi, je pique. Et après, j'ai mon assistante qui vient vous masser les mains, qui va en fait permettre de répartir cet acide hyaluronique. Et naturellement, le produit va se combler partout où on en a besoin.
Ça doit pas être désagréable, ce petit massage en plus derrière, en plus.
Le massage est plus agréable que les piqûres.
C'est ça. Bon, après, les gens préfèrent votre assistante en
exactement.
Général que vous. Ça, du coup, on le fait une fois. Ça dure combien de temps l'effet? Est-ce qu'il faut le refaire?
Alors, en hydratation, on refait à peu près tous les 6 mois parce que le produit.
Ça, c'est en hydratation.
En hydratation, le produit dure 1 an.
D'accord.
Et pareil, l'acide hyaluronique de comblement, ça dure aussi 1 année.
D'accord.
Donc, quand on va travailler sur un comblement, on va faire une séance une fois par an. Quand on va travailler sur une hydratation, on va faire une séance une fois tous les 6 mois.
D'accord. Et ça coûte le même prix, du coup, l'acide hyaluronique, l'un ou l'autre sont.
Non,
des...
il est plus cher l'acide hyaluronique qui va durer 1 an. En fait, c'est 350 euros une ampoule.
D'accord.
Et il y a besoin d'une ampoule par main.
D'accord, donc ça fait quand même 700 euros la séance.
Par an.
D'accord, mais la satisfaction est au rendez-vous en général ou
ouais, c'est très bien parce que du coup, les femmes ne vont plus se préoccuper de mettre la main au visage quand elles vont parler avec un beau jeune homme.
Elles n'arrêtent pas de mettre leurs mains sur les visages.
Exactement,
après,
exactement. Donc en fait, il y a plus ce complexe de dire mince, mes mains vont trahir mon âge et donc du coup, je vais être démasqué. Donc c'est très apprécié.
Dimi,
vous dites que ce n'est pas douloureux, mais est-ce qu'on peut retourner travailler après? Il n'y a pas des, je sais pas, de l'œdème, un peu d'inflammation qui serait peut-être
alors,
un peu.
Alors, vous pouvez avoir un petit œdème comme après toute piqûre, mais aucune éviction sociale ni éviction de travail. Quoi. Vous pouvez retravailler dans les 10 minutes qui suivent.
Avec l'œdème, aller travailler, oui, on peut vraiment. Oui,
c'est un micro-œdème,
c'est vraiment tout petit.
Gonflé,
hein. C'est
ah
ça.
Oui.
Donc,
et à la rigueur, je veux dire,
raconte,
c'est que cet œdème est apprécié parce qu'en fait, l'œdème redonne un côté pulpeux au niveau de la main et c'est joli. Ça fait des jolies mains hydratées.
Mais après, ça dégonfle quand même. Donc,
ah oui.
Mais ça laisse quand même l'effet là. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec les mains décharnées de nouveau. C'est ça. Ça reste quand même.
Exactement.
Très bien. Est-ce qu'il y a des contre-indications quand même pour faire ça? Parce que bon, bah, quand même, c'est injecter un produit dans le corps. Je ne sais pas, il peut y avoir.
Bien sûr. En fait, c'est toutes les contre-indications de l'acide hyaluronique, à savoir toutes les maladies auto-immunes, maladies qu'on appelle Hashimoto, basse d'eau, les lupus, ou bien certaines maladies cutanées un petit peu rares et compliquées sur lesquelles on se dit on va laisser la peau au repos. C'est pas grave si on a un petit peu de rides au niveau des mains. On prend jamais de risque en médecine esthétique.
Pourquoi ces contre-indications pour les maladies, par exemple, auto-immunes, thyroïdes et tout ça?
Une maladie auto-immune, c'est créer des anticorps contre son propre corps, ce qui fait qu'en fait, la littérature médicale a prouvé qu'il pouvait y avoir l'apparition de ce qu'on appelait des granulomes sur un terrain dans lequel vous avez une auto-inflammation permanente de votre corps. Donc dans ces cas-là, on prend jamais le risque d'injecter une patiente qui a une maladie auto-immune.
D'accord, je comprends bien. Donc jamais de danger. En tout cas, vous faites toujours très attention à la partie médicale.
La médecine esthétique, c'est une médecine de confort.
Ouais.
Hein, donc on ne prendra aucun risque avec la moindre pathologie sous-jacente.
Très bien. On va passer aux taches à présent. Vous avez dit tout à l'heure donc les taches de vieillesse, les fleurs de cimetière, les taches qu'on peut avoir à cause du soleil sur les mains. Vous avez dit qu'il y a peu de chances d'y échapper. 90% des gens finissent, voire plus, avec des taches. Le traitement de référence, là, c'est clairement le laser. Hein.
Exactement. C'est un laser où la technologie s'appelle le Q-switché.
En fait, c'est un Q-switché, comment vous écrivez ça? Q comme un Q.
Voilà, et switché, S-W-I-T-C-H.
Q, la lettre Q. Et donc, switché, switch, c'est S-W.
Exactement.
Voilà. D'accord.
Et donc, du coup, en fait, c'est un laser qui est ce qu'on appelle un laser pigmentaire qui va en fait venir brûler uniquement la mélanine, donc ne pas du tout altérer les tissus adjacents. Et en brûlant cette mélanine, la mélanine va former une croûte. Et la croûte tombant, la mélanine va disparaître.
Le laser, il va cibler ça, le
exactement.
Pigment.
Exactement.
Ça chauffe, du coup, c'est ça?
En fait, ça chauffe que la mélanine. Ça veut dire que si je passe avec mon laser Q-switché sur une peau saine, ça ne fera strictement rien. Mais par contre, si jamais le laser rencontre un pigment de mélanine, ça va le brûler. Et donc, du coup, croûte 5 jours à 10 jours au niveau des mains. Et donc, dans ces cas-là, ça vous permet d'éliminer les taches.
D'accord. Jimmy?
Et du coup, ça se passe comment la séance? Vous avez votre laser et puis vous grillez les petites taches, en fait, comme pour l'épilation classique, en fait?
Exactement. En fait, ce sont uniquement des médecins qui pratiquent cet acte au cabinet. Et donc, du coup, c'est une séance qui dure, en fonction du nombre de taches, bien sûr, mais qui va durer à peu près une demi-heure. Et on traite, dans ce cas-là, nous, je sais qu'on a une formule dans laquelle on traite les taches mains, visage, décolleté. Donc, en fait, c'est une séance... Détachage complet, quoi.
Détachage complet, c'est comme au pressing, on
exactement,
détache tout d'un coup.
Exactement.
Mais vous disiez oui, parce qu'en fait, ces taches de vieillesse, il n'y en a pas que sur les mains, hein, c'est
non.
ça. Elles peuvent apparaître également, ou vous disiez,
alors,
sur le décolleté.
Mains, ouais. visage, décolleté.
Et c'est le même partout. On
et
utilise
c'est le même traitement, ouais. c'est la même cause d'apparition des taches et la même prise en charge.
D'accord. Et ce laser, c'est le même que vous utilisez pour la dépilation? Non, c'est pas pareil.
Non, ça n'a rien à voir.
C'est pas le même laser.
Ça n'a rien à voir.
Là, ce sont des lasers différents.
Oui, c'est la technologie s'appelle Alexandrite et Ndiaye.
Vous étiez venu nous en parler dans une précédente émission.
Exactement. Là, c'est pas la même technologie. C'est une autre longueur d'onde. Donc, on va cibler plutôt le poil. Et là, on va cibler la mélanine de la tache.
Et les taches, les lasers pour les taches, ça existe depuis combien de temps? Vous faites ça depuis combien de temps en cabinet?
Moi, ça fait 19 ans que je fais du laser pour enlever les taches.
Jimmy?
Et du coup, une fois qu'on a fait ce traitement, on sort du cabinet, ça y est, on a nos mains sans taches, ou il faut attendre un petit délai on va dire de 15 jours, 3 semaines avant que l'efficacité maximale soit apparente.
Donc vous sortez du cabinet, vous avez des petites rougeurs sur chaque tache. Le lendemain matin apparaissent les croûtes. Les croûtes d'un visage durent 5 jours. Les croûtes du reste du corps, décolleté et main, ça dure à peu près une quinzaine de jours. Donc en fait, vous n'êtes pas super joli pendant toute cette période-là.
Mais si on est plein de croûtes, on ne va pas travailler quand même, non? Parce que je
sais
pas,
mais après on peut décomposer la séance en 2-3 séances. Mmh. Moi, j'ai des patientes qui viennent, qui enlèvent à chaque fois 3 tâches et elles reviennent après parce qu'elles ne peuvent pas se permettre d'arriver au travail avec
des croûtes partout.
Des croûtes partout, ambiance varicelle.
C'est ça. On fait ça pendant les vacances, sinon.
Mmh. Ouais, mais pas pendant les vacances d'été parce qu'il faut pas aller au soleil.
Ah, quand même.
Ça laisse des cicatrices, en fait, c'est ça, comme
la varicelle. En fait, ce qui va se passer, c'est que jusqu'au moment où la croûte va tomber, vous allez avoir une peau qui est rosée, donc une peau toute neuve, très jolie, toute neuve, mais qu'il va falloir protéger. Donc, c'est pour ça qu'après le laser pour les taches, pas d'exposition solaire pendant à peu près un bon mois après la séance.
Du coup, vous recommandez de le faire plutôt en ce moment? Alors, c'est ça,
ah oui,
c'est la période.
À partir d'avril, on arrête.
Vous en faites beaucoup, là, en ce moment?
Ah, on en fait tous les jours.
Ah, c'est ça, c'est vraiment une
indication
d'hiver.
On en fait tous les jours. Entre octobre et avril, on en fait régulièrement.
Et on peut le faire sur une peau après les vacances, une peau bronzée,
non,
par contre?
Non, il faut plus. Tous les traitements laser, de toute façon, c'est une recommandation de les faire sur une peau pour lesquelles il n'y a pas eu d'exposition solaire un mois après. Et après le traitement, pas d'exposition solaire entre un mois et deux mois après la séance. Parce qu'en fait, vous avez une peau neuve, ce qui fait que si jamais vous avez une exposition solaire sur une peau neuve, vous risquez d'avoir la réapparition des taches. Et c'est jamais très bon d'avoir de nouveau des apparitions des taches sur une peau saine.
Il y a des traitements à mettre après, des crèmes ou des choses comme ça?
Alors,
après, pour les croûtes, pour faire partir les croûtes et tout ça?
Tout à fait. Ouais. En fait, on conseille des crèmes apaisantes, cicatrisantes, juste après la séance, jusqu'à la disparition des croûtes. Mm-hmm. Et si jamais vous avez l'occasion d'avoir les mains au soleil, de mettre l'écran total et sur le visage, mais aussi n'oubliez pas vos mains, votre décolleté, vos bras.
Vous disiez pas de peau qui sorte du soleil après les vacances au Baléares ou je ne sais quoi, on va pas se faire la séance de laser tout de suite, on attend un mois. Mais les gens qui ont la peau naturellement bronzée, qui sont mates de peau, comme moi par exemple, non, vous rigolez, Jimmy, je suis pas
mate. Oui, j'ai connu plus mate, excusez-moi,
espagnole,
ne le prenez pas mal.
Hein. Non, mais on peut y aller quand on a la peau bronzée ou mate?
On peut aller, après, pour les patientes méditerranéennes ou les patientes.
Mais c'est moi, je suis méditerranéenne.
Ouais, méditerranéen clair. On peut faire après une petite complémentarité avec un petit peu de crème à base de cortisone pour éviter les rebonds pigmentaires. C'est des peaux un peu plus fragiles, on les traite aussi, mais il y a quelques précautions à prendre juste à l'issue de la séance.
Jimmy?
Et par contre, on ne peut pas prévenir ces taches. Les crèmes dont vous parlez, ça ne sert à rien de les mettre avant pour ne pas avoir de taches de vieillissement.
Jimmy préfère toujours prévenir que guérir.
Oui, non, mais il a raison, parce qu'il est jeune. En fait, il se pose la question plus tard comment ça va se passer sur ses mains. Mais il sera le bienvenu au cabinet. Mais...
Sans qu'on vous fait une invitation, Jimmy.
La seule préparation que vous pouvez conseiller à vos patients, c'est de mettre de l'écran total à partir de la première exposition solaire.
Ah, est-ce que, même sur les mains?
Ah oui, sur les mains. En fait, toute peau. Nous, on a des patientes qui viennent parce qu'elles ont des taches sur les jambes, sur les bras, sur le décolleté.
Vous le faites, vous, ça? Vous mettez de la crème sur vos mains?
Moi, j'ai rarement mes mains exposées au soleil parce que je suis au travail toute la journée.
D'accord.
Mais c'est un réflexe qu'on devrait tous avoir.
Le laser pour les taches, combien ça coûte la séance?
Alors, une séance complète au cabinet, c'est 170 € et on va chercher la tache. C'est-à-dire qu'on fait le visage, on fait le décolleté et les mains pour 170 €.
Bon, et pour garder des mains jeunes, la prévention, donc Jimmy a en parlé, mais mettre de la crème s'hydrater globalement sans crème particulière, c'est bien. Hein, de
exactement.
Toute façon, ça aide
façon,
à vieillir moins vite.
Il y a une prévention dans tout ce que l'on fait.
Merci beaucoup, docteur Adda, d'être venu sur notre
plaisir.
Plateau. Grâce à vous, on sait ce qu'il faut faire pour retrouver ou garder des mains de jeunes filles ou de jeunes hommes. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les maux du quotidien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui n'est certes pas très fréquent en France, la lèpre, à quelques jours des journées mondiales contre cette maladie. C'est l'occasion de faire un point sur ce mal qui fait encore plus de 200 000 victimes chaque année. Et on ne le sait pas, mais une soixantaine de cas sont importés et sont diagnostiqués en France chaque année. Même chez nous, oui. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les maux du quotidien. Et aujourd'hui on parle de la lèpre, nous sommes à la veille des journées mondiales contre cette maladie. Savez-vous que 3 millions de personnes sont handicapées par cette pathologie qu'on n'a pas encore donc éradiquée dans le monde? Mais savez-vous précisément de quoi il s'agit? Et si ça se guérit la lèpre? Justement, notre reporter Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
Bah, je vois plutôt c'est physique, donc c'est sur la peau, le visage.
Les opulences qui se créent sur le corps, c'est ça?
Je pense que c'est au niveau du visage.
Les effets, je pense que c'est une destruction du pigmentation de la peau.
Et... esthétiquement, c'est tout simplement horrible pour la personne. Bah, c'est pas beau à voir, hein. Je pense que ça doit faire plein de croûtes, ça suppure.
Ça sent mauvais, il me semble.
Je pense que c'était plutôt un virus, donc après je sais pas si c'est quoi la distinction exacte entre virus et bactéries, mais...
Mais c'est une ancienne maladie. Ça du temps du Moyen-Âge. Je pense pas qu'il y ait des cas de lèpre en France, quoi.
Je pense qu'on en mourrait, oui, de la lèpre.
Ça se soigne par une injection ou un médicament, je pense.
Et ceux qui sont pas vaccinés peuvent en fait transmettre la maladie.
Vous faites la bise à quelqu'un et voilà, vous l'attrapez.
Alors, Jimmy, on voit qu'effectivement, la lèpre, on sait des choses, mais enfin, on
n'en
a
quand
pas,
même, hein,
ouais, on a pas beaucoup. Ouais. Mais bon, il faut dire qu'effectivement, ce n'est pas une maladie qu'on voit tous les jours en France.
Encore,
heureusement,
oui.
Malheureusement, elle est présente ailleurs dans le monde et de manière encore assez active. Alors, Jimmy, la lèpre, c'est une maladie infectieuse qui existe effectivement depuis très longtemps. C'est une maladie ancestrale qui est causée par une mycobactérie. Hein.
Exactement, c'est donc une maladie infectieuse chronique qui est causée par un bacille qu'on appelle le Mycobacterium leprae qui se transmet par voie respiratoire. Ce qui veut donc dire que la salive permet de transmettre cette infection et probablement les contacts cutanés répétés et prolongés. Cette mycobactérie, elle se multiplie très lentement, ce qui veut donc dire qu'on a une période d'incubation de 5 ans en moyenne.
Wow,
donc c'est très
ouais,
très long.
C'est long, on peut l'avoir et il n'y a rien qui sort.
À titre d'exemple, la grippe, c'est 24 heures et on développe la maladie. Là, on peut attendre jusqu'à 5 ans. On sait néanmoins que dans certains cas, les symptômes peuvent apparaître dès la première à l'année ou au contraire, mettre plus de 20 ans avant de s'installer.
Il n'y a pas vraiment de règles avec la lèpre. Alors justement, les symptômes, on a tous en tête des images qu'on a pu voir dans des films qui se passaient en Inde ou autre, des patients lépreux qui ont perdu leurs jambes, leurs mains. C'est une maladie qui se manifeste comme ça précisément ou il y a d'autres symptômes?
Alors c'est vrai qu'on a souvent les stades les plus graves et les derniers stades qu'on a tous en tête et qui sont horribles, mais la maladie touche la peau, les nerfs périphériques, les muqueuses des voies respiratoires ainsi que les yeux. Elle commence par ce qu'on appelle une lépride indifférenciée. C'est des petites lésions cutanées qui ne sont pas vraiment spécifiques, plutôt sèches, bien limitées et planes. Et puis, elles peuvent être précédées d'un peu de picotement. Et puis ensuite, les lésions évoluent vers une anesthésie cutanée. On ne sent plus ni la douleur, ni la chaleur.
Il y a ces lésions sur la peau et à cet endroit-là, donc aux mains, aux pieds ou ailleurs, il ne sent plus rien, c'est ça.
Lié à l'atteinte des nerfs périphériques. Mmh. Et puis ensuite, par la suite, on a ces images terribles qu'on a en tête. Lorsque les lésions ne sont pas traitées, la lèpre finit par donner des paralysies, des mutilations, jusqu'à avoir une cécité lorsque l'atteinte oculaire est plus sévère.
Ouais, c'est affreux. Alors ça veut dire quand même que ça se traite. Si vous avez dit si ça se traite pas, on arrive là. Mais
exactement,
donc ça
se traite
ouais.
Et on en guérit. Heureusement, c'est pour ça qu'il faut vraiment encore mettre le paquet pour se débarrasser et éradiquer cette maladie. Les lésions cutanées, elles se réparent en moins de 2 ans et le malade, alors lorsqu'il est mis en observation sans traitement, il est considéré comme définitivement guéri 1 an plus tard.
Ah oui, alors comment ça se traite justement?
Alors le traitement, il est préconisé depuis 1981 par l'OMS. Et il repose sur ce qu'on appelle une polychimiothérapie associant 2 ou 3 antibiotiques. Le problème, c'est que c'est une maladie liée essentiellement à la pauvreté qui touche les populations qui sont plutôt isolées, coupées des systèmes de santé,
sûr.
Où finalement la maladie va se propager. C'est ce qu'on appelle une maladie, la maladie de la honte, alors que ce n'est pas du tout le terme adapté. Et c'est un obstacle à la consultation, puisque comme on a honte, on ne va pas voir le médecin. Et comme on ne va pas voir le médecin, la maladie se propage. Il est donc difficile de la contrôler. C'est un des plus grands défis, un peu d'en parler et puis surtout d'éduquer les populations et leur donner un peu plus de moyens.
Merci beaucoup Jimmy. Et pour terminer, on le rappelle, la lèpre, c'est plus de 200 000 nouveaux cas par an dans le monde. Il y a même une soixantaine de cas importés, diagnostiqués en France. Alors si vous souhaitez contribuer à l'éradication de cette maladie, à partir de demain et pendant 3 jours, partout en France, vous verrez des quêteurs, notamment de l'Ordre de Malte, acteur historique de la lutte contre la lèpre. Alors n'hésitez pas à faire un don. Chaque don compte. Pour vous donner une idée, un don de 5 euros, c'est déjà 3 consultations pour des patients lépreux dans leurs hôpitaux.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de baisers profonds avec la langue. Certaines personnes n'aiment pas du tout ça. Catherine nous expliquera que ça peut être le symptôme d'un blocage lui aussi assez profond. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission que beaucoup d'auditeurs attendent avec impatience, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous?
Je vais très bien, je vous remercie. Et vous, tous les deux, en forme?
Moi ça va, Jimmy comme aussi, il attend la chronique lui aussi avec impatience. Alors aujourd'hui...
vous y auriez droit, voilà. Vous y aurez droit à chaque fois, hein, Jimmy.
Alors Catherine, on a une question aujourd'hui de Lucie. Lucie, elle a 30 ans, je vous lis sa question. Je n'aime pas embrasser profondément mon mari avec la langue. Il m'en fait le reproche sans cesse et à juste titre car ma bouche reste fermée. Je ne sais pas pourquoi ce type de baiser est pour moi si difficile. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, comment c'est possible de pas avoir envie d'embrasser avec la langue? Parce que je crois que c'est ça qu'elle veut dire.
Eh bien, tout est possible dans la vie. Hein. C'est-à-dire que nos inhibitions, elles se baladent un peu partout selon notre histoire. Et pour X raisons, eh bien, cette zone, la zone de sa bouche, est une zone qu'elle protège pour soit réparer quelque chose qui s'y est passé, ou soit parce que c'est une zone qui, contrairement à la zone génitale, peut-être qu'elle accepte très tranquillement, dont elle accepte la pénétration, oui. Eh bien, la zone orale, c'est une zone qui raconte quelque chose de plus primitif dans son lien à sa maman notamment, dans son rapport à l'autre, et selon ce qui s'y est joué, eh bien, cela devient un endroit difficile à pénétrer.
Jimmy ?
Et puis là, est-ce que ce ne serait pas quelque chose d'un peu, je ne sais pas si on peut dire pathologique, car elle dit « ma bouche reste fermée », comme si elle était contrainte et qu'elle se sentait presque violée par le baiser de son propre mari. Il y a peut-être quelque chose de plus lourd en dessous.
Et exactement. C'est-à-dire qu'en fait, toute la difficulté, alors évidemment, c'est tellement vaste qu'on ne va pas pouvoir trouver nécessairement exactement ce qui s'est joué pour elle, mais il peut y avoir plusieurs choses. Il y a ou que la sexualité est quelque chose qui est presque perçu un peu en dehors d'elle. Donc, il peut s'y passer n'importe quoi, ça lui importe peu. Par contre, là où c'est noble, où c'est vierge, c'est pur, c'est la zone orale. Et du coup, là, elle ne peut pas embrasser. C'est d'ailleurs ce que... Il y avait un film qui mettait en scène une prostituée qui s'appelait « J'embrasse pas ». Comme si la sexualité, c'était une possibilité facile, dans un déni de soi, voire quelque chose un peu autodestructeur de soi. Par contre, il y a un endroit qui était particulièrement protégé. Et ce peut être ce cas-là. Ou alors, pardon.
Non, non, allez-y, terminez.
Ou alors, ce peut être parce que, justement, son rapport... Alors, ne pas ouvrir la bouche, c'est comme ne pas s'exprimer, ne pas parler, ne pas échanger avec l'autre, avec une idée peut-être de dangerosité dans ce lien-là et qui s'est joué certainement dans son relationnel à sa maman, dans sa façon d'être nourrie, peut-être intrusée, une cuillère violente, contrainte, qui entraîne du coup une grande protection dans ce lieu, alors que le lieu de la génitalité, lui, a été plus pérenne puisqu'il était plus tardif et avec d'autres que ce parent-là.
Pourtant, embrasser avec la langue, embrasser profondément, ça, c'est quelque chose qu'on commence à faire assez... Enfin, c'est le début de la sexualité, quand même, on commence en général par ça. C'est quelque chose d'assez mécanique, assez simple, c'est étonnant. Il y en a beaucoup des gens comme ça qui sont...
Bien sûr, mais comme il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rire et éclater de rire, et qui font des... des bouches très fermées, comme s'ils ne pouvaient pas être dans cette liberté d'expression, de plaisir, et une bouche, un baiser profond, avec des langues qui échangent leur salive, eh bien, ça demande une tranquillité dans le rapport à l'autre. Et pour certains, c'est extrêmement anxiogène.
Jimmy ?
Est-ce que ça veut dire qu'elle aime un peu moins son mari ou qu'elle ne l'aime pas tant que ça, ou finalement ça n'a strictement aucun rapport?
Ça peut être une difficulté, c'est-à-dire que tant que, encore une fois, la sexualité se fait, on la subit, c'est un moment à passer et puis point barre, alors qu'un baiser, c'est vraiment un face-à-face, c'est se regarder, c'est un contact où on est plus dans la conscience, puisque c'est dans la zone près de la tête en quelque sorte, donc on a conscience de ce qu'on est en train de faire avec l'autre, alors que pour certaines femmes, elles peuvent faire l'amour tout en faisant leurs courses, en étant en train de faire du sport dans leur tête, en étant ailleurs, parce que ça se fait là-bas en bas pendant ce temps avant de passer à autre chose. Donc c'est c'est assez intime, c'est même très intime un baiser. On n'embrasse pas n'importe qui, il ne se joue pas n'importe quoi. Et pour certains, c'est vraiment du domaine de l'impossible.
Mais c'est pourtant, enfin, je crois que vous aviez déjà dit que le baiser, c'est quand même un signe de bonne santé du couple, des couples qui s'embrassent. Il faut qu'elle essaye d'y remédier, alors pas se forcer, parce que je sais que vous n'aimez pas qu'on se force, mais est-ce qu'il faut qu'elle travaille là-dessus ?
Il faudrait, peut-être d'ailleurs, a-t-elle aussi des difficultés dans son rapport à la nourriture ? Peut-être est-elle anorexique ou l'a-t-elle été ? Il y a peut-être quelque chose, de toute façon, dans cette zone-là, qui s'est jouée et se rejoue dans le cadre de la relation à l'autre, pour que cette bouche reste vraiment dans une maîtrise. Peut-être aussi parce que la bouche est plus maîtrisable que, pour elle, dans son esprit, que ne le serait son vagin, donc, ou alors une peur de sa propre agressivité, c'est-à-dire que la bouche peut mordre quand le vagin, lui, non. Et donc peut-être qu'elle est beaucoup plus en surveillance ou de l'autre, elle se protège, ou d'elle-même, elle le protège.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux, comme toujours. Et donc à demain, voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, nous parlerons des caries. Vous comprendrez pourquoi une carie fait mal, comment la soigner et surtout comment éviter d'en avoir. Mais tout de suite, on retrouve comme chaque jour Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous. L'équipe sauvage arrive avec deux stars de la BD française pour l'année de la BD, car le saviez-vous, 2020 sera l'année de la BD en France. Le festival d'Angoulême arrive, ils sont avec nous aujourd'hui, deux stars donc, Jules, l'auteur de 50 nuances de grec, et Catherine Meurice, première femme autrice de bande dessinée à intégrer l'Académie des Beaux-Arts. Elle est donc immortelle et elle est avec nous sur Europe 1 cet après-midi.
Rien que ça, merci beaucoup Mathieu, beau programme, on sera à l'écoute et vous aussi, je vous le conseille, hein. Restez sur Europe 1.